Merci. Je vais aller le plus directement possible à l'objectif. Alors, mais seulement c'est très important ce que vous avez entendu parce que ce que je vais dire a un caractère plus d'implication, d'engagement personnel, pourrait-on dire, dans la réflexion. Et donc, vous ne devez pas être d'accord avec ce que je vais dire. Vous pouvez, à partir de ce que Véronique a présenté et ce qu'il y a dans le rapport, faire une autre analyse, tirer d'autres conclusions. Et ça, c'est une chose très importante, de pouvoir partir de ce matériau, vous allez dire, mais structuré, organisé. Alors, mon propos, c'est à partir forcément d'analyses en groupe et des apports théoriques qui ont été proposés. C'est le propos d'un sociologue qui essaye de dégager des nœuds et des leviers pour agir. C'est une prise de position personnelle. Et donc je risque en quelque sorte une prospective avec laquelle on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ça permet au moins de discuter. Alors je dirais qu'au fond, pour être assez radical, je vais être assez radical et réducteur, une institution a le droit entre un scénario, un programme faible pourrait-on dire, et un programme fort. Le programme faible, Véronique l'a évoqué, ce serait une attitude soit défensive, soit opportuniste en quelque sorte. En faire le minimum, attendre que les experts disparaissent le plus vite possible du terrain, déléguer l'évaluation à quelqu'un qui fera ce qu'il faut pour répondre aux contraintes administratives, etc. Éventuellement, offensivement, instrumentaliser l'évaluation pour renforcer sa position concurrentielle dans le champ de l'enseignement supérieur, de révéler que certaines choses, lire surtout les rapports de la concurrence, on a observé qu'on lisait surtout les rapports des autres institutions concurrentes, revoir sa publicité en fonction des points forts, tout en essayant d'occulter les points faibles, etc. Et le monde étant comme il est, fait comme il est, eh bien, c'est ce programme faible qui semble prévaloir, même si je le caricature ici volontairement, à partir des analyses en groupe. Et donc, comment sortir de cette logique, en tout cas, ne pas s'y limiter, tout en étant lucide. Et c'est là que je proposerais plutôt un programme qu'on pourrait qualifier de fort. Avec des raisons, des bonnes raisons, des raisons positives, c'est d'abord que l'évaluation dans les institutions, c'est sans doute un des rares moments, une des seules occasions pour faire collectivement le point avec les enseignants, les étudiants, etc., sur l'enseignement prodigué, sans obligation de décision immédiate. On n'est pas dans un conseil de département ou autre chose de ce genre-là, ou un conseil d'administration. Parce qu'aussi, il y a des ressources externes, les experts, l'agence, qui sont mobilisés et qui pourraient être utilisés, si j'ose dire, si je peux me permettre, intelligemment. Alors, mais il y a aussi des raisons négatives. Le monde de l'enseignement n'échappera plus à l'évaluation. C'est une illusion de le croire. Et le monde de l'enseignement qui n'arrête pas d'évaluer doit accepter de se faire évaluer. Mais la question, c'est pas n'importe comment. Parce qu'aussi, on y consacre un temps précieux dans les institutions et autant faire en sorte que ce temps ne soit pas perdu. Au niveau de maintenant, pour arriver aux nœuds et aux leviers, éventuellement, je mettrai d'abord en évidence ce que je considérais comme deux chimères qu'on retrouve souvent dans des institutions, notamment les instituts d'enseignement, mais aussi la justice, etc., la médecine et d'autres institutions, ou disons chimères ou constats sociologiques de départ. La première chimère, c'est la chimère de l'efficacité directe et linéaire des décisions. Il faut avoir toujours à l'esprit que les effets des décisions et des dispositifs, comme celui d'évaluation, ne correspondent jamais aux intentions de départ. Jamais. Ça se passe jamais comme prévu. Et concernant l'évaluation, par exemple, ce qui en effet résulte d'un ensemble de conditions que les analyses en groupe ont bien mises en évidence, comme par exemple l'impact fonctionnel et psychologique du contexte. Ça vient de haut, c'est une injonction qui vient de l'Europe, qui vient du politique, etc. On est dans le contexte du décret paysage, des fusions d'établissements, établissements de plus en plus grands, avec des directions de plus en plus éloignées, etc. Ça dépend fort du terrain dans lequel l'évaluation atterrit. Avec des conditions structurelles préexistantes, la spécificité des réseaux, l'autonomie des directions, etc. Ça dépend aussi des conditions organisationnelles de la mise en œuvre de l'évaluation, par exemple le profil et le statut, la crédibilité du coordinateur qualité, son poids en quelque sorte dans l'institution, et bien d'autres facteurs comme les motivations personnelles. Au niveau des établissements aussi, Véronique l'a souligné, le problème central pour beaucoup de participants était ce qu'ils appelaient la non-transférabilité des diagnostics et recommandations dans des changements pertinents. Alors, ça ne veut pas dire que les décisions et les dispositifs soient inutiles. C'est Max Weber qui explique que les effets des décisions ne correspondent jamais aux intentions, mais qu'en même temps, il est important que des décisions se prennent, sans quoi l'action perdrait toute consistance. Et donc, ce n'est pas parce que les effets ne sont pas ceux qu'on attend que ne sont pas ceux qui sont recherchés, que ces décisions et ces dispositifs sont inutiles. Mais ça veut dire qu'il faut se débarrasser d'un schéma dans lequel on est très souvent spontanément prisonnier. Et ce schéma, c'est une vision mécanique et linéaire de l'évaluation et de l'action. C'est-à-dire, on analyse, on décide, on agit. Eh bien, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça. Ces trois moments sont imbriqués de façon beaucoup plus complexe avec d'autres moments de réflexion, etc. Il faut se départir d'une vision activiste et progressiste de l'évaluation, c'est-à-dire une vision qui voudrait qu'elle débouche absolument sur des actions et sur des progrès. Pourquoi chercher des progrès si les choses se passent bien, hein? Ce serait au contraire plus intelligent de faire de sorte qu'on puisse les sauvegarder. Donc, se dégager d'une vision à la fois activiste, progressiste, mécanique, linéaire de l'évaluation, c'est une règle sociologique pratiquement, enfin en tout cas une conséquence sociologique d'une série d'analyses dans une série de domaines. Le deuxième chimère, c'est ce que j'appellerais la chimère de l'adhésion. Donc là, les responsables de quoi que ce soit, disons les encadreurs par rapport à des encadrés, pour employer des mots un peu simplistes, donc par exemple des médecins par rapport aux patients, des enseignants par rapport aux étudiants, aux élèves, des magistrats par rapport aux justiciables, etc., pensent, c'est ça leur chimère, pensent que leur travail n'a de sens et ne peut aboutir que si les encadrés adhèrent à leur système de valeurs et à leurs objectifs. Or, ça ne se passe aussi jamais comme cela. Hein, et les analyses l'ont bien montré. Et la volonté de convaincre, de faire adhérer, notamment à l'évaluation, etc., eh bien, est en grande partie, je ne dis pas totalement, une chimère. Il y a forcément un partage minimum de valeurs, d'objectifs en commun, de finalités, mais c'est souvent beaucoup plus, beaucoup moins fort que ce qu'on imagine. Les MAG, les analyses en groupe, ont montré l'absence de sens partagé par les acteurs concernés par l'évaluation en fonction des institutions, des réseaux, des fonctions, des responsabilités, etc. Et donc, il faut se débarrasser aussi d'un schéma ou d'une approche consensualiste de l'évaluation. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord. Au contraire, il faut assumer les désaccords. Et la méthode d'analyse en groupe met un accent centralement sur cette idée. Au fond, on cherche pas tellement les convergences, on cherche à se mettre d'accord sur une formulation des divergences, des désaccords. On cherche à se mettre d'accord sur une formulation des désaccords, et c'est vraiment un principe central, clé de toute action institutionnelle qui espère avoir, qui vise une chance de réussite. La question, c'est comment faire avec les divergences. La question, c'est de faire quelque chose avec elles, simplement ne pas les considérer comme des inconvénients, comme des obstacles, ce qu'elles ne sont pas. Au contraire, elles sont des ressorts, en quelque sorte, de changement. Alors, trois propositions. Trois propositions. La première proposition, celle porte sur le surquoi. Sur quoi devrait porter l'évaluation. Eh bien, la proposition qui est faite, c'est que l'objet et l'enjeu de l'évaluation doit être la connaissance et sa transmission. La connaissance, c'est l'objet et l'enjeu central de l'enseignement supérieur. Ce qui signifie que toute question que se pose l'enseignement supérieur doit être posée à partir sous l'angle de la connaissance. Les questions de l'égalité, les questions de la justice, les questions de finalité, etc., parce que c'est le propre de l'enseignement supérieur de travailler sur l'objet de la connaissance. Et l'enjeu central de l'enseignement supérieur, c'est la connaissance. Et c'est d'ailleurs de plus en plus aussi l'enjeu central de la société, qu'on appelle la société de la connaissance, parce que c'est devenu le principal moyen de production. Alors, l'évaluation, eh bien, elle porte sur quoi? Elle porte sur la connaissance. Quelle connaissance? C'est le contenu des programmes et des cours. Comment la France va être cette connaissance? Ce sont les dispositifs et pratiques pédagogiques acquis. C'est le profil, le recrutement, la réussite ou l'échec des étudiants. Pour qui et pourquoi? C'est la question des finalités de l'enseignement. Et là, la question de l'intérêt général sur lequel il n'y a pas de consensus et la question de la qualité et même de la définition de ces deux termes peut déjà progresser. L'intérêt général, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à produire et à transmettre les connaissances les plus nécessaires à l'amélioration de la société et à la possibilité pour tous les étudiants d'y contribuer et d'y trouver place. On définit l'intérêt général parlant à travers le spectre de la connaissance. Et la qualité, c'est quoi? La qualité, eh bien, elle porte d'abord sur les connaissances, la qualité des connaissances transmises et la manière de les transmettre. Deuxième proposition, pourquoi? Quelle est la fin de l'évaluation? La finalité de l'évaluation? Eh bien, la fin de l'évaluation, si on n'est pas dans une optique progressiste, linéaire, mécanique, etc., la fin de l'évaluation ne peut être qu'une seule chose, le processus d'évaluation lui-même. C'est-à-dire la dynamique elle-même au sein de l'institution, plus que les résultats par lesquels il ne faut surtout pas être obsédé. la conception de l'évaluation doit être pragmatique, c'est-à-dire ce qui compte, c'est cette dynamique de réflexion enclenchée dans l'institution. Elle doit être constructiviste, à beaucoup d'emplois, toutes les choses, sans le définir. Ça veut dire un processus qui se détermine au fur et à mesure en avançant. On se définit en avançant, en fonction de ce que les acteurs en font, dans les conditions concrètes et particulières où ils se trouvent dans chaque établissement. La conception doit être une conception heuristique, heuristique au sens d'un processus de découverte de ses propres pratiques et de celles des autres, de découverte des valeurs jugées dignes de soutenir l'évolution de ces pratiques. Donc on est dans un changement, une révolution copernicienne, si j'ose dire, par rapport à une conception assez technocratique de l'évaluation, qui n'est pas, je m'empresse de le dire, celle qui cherche à s'imposer, ou qui cherche à s'imposer, mais c'est aux acteurs des institutions de se l'approprier. La dynamique est en elle-même le meilleur des résultats. La dynamique d'échange, de discussion, de coopération conflictuelle au sein des institutions. Troisième proposition, la dernière, par qui ? L'acteur principal de l'évaluation doit être collectif. On l'a dit. Oui, mais c'est trop court de dire cela. Dire que tout le monde devrait être impliqué, c'est un vœu pieux, une incantation. La formule doit varier selon les institutions, mais on peut dégager néanmoins quelques leviers à caractère général. Première idée, je suis presque au bout, hein. Oui, 5 minutes, d'accord, 4, 6. Premièrement, quelle est l'unité de base d'une action collective ? Mais toute la sociologie montre que l'unité de base de toute action collective, de tout mouvement social, que ce soit les plus grands mouvements, mouvement ouvrier, mouvement des femmes, mouvement écologique, etc., ou les actions les plus locales, c'est quoi ? Ce sont toujours des micro-réseaux de mobilisation. On peut les appeler comme ça. Ce sont toujours des petits groupes de personnes actives, par exemple de quelques enseignants dynamiques qui s'organisent pour lancer une initiative au sein de l'établissement. Par exemple, un groupe de réflexion pédagogique, une cellule de recherche, un projet avec des étudiants, le lancement d'un nouveau programme ou quoi que ce soit. Au sein de tels micro-réseaux, les acteurs apprennent à collaborer, nouent des relations d'amitié et de confiance, trouvent plus de raisons de s'impliquer que de ne pas s'impliquer, parviennent à vaincre leurs craintes et leurs incertitudes dans les épreuves, s'entraident et se soutiennent progressivement, de plus en plus, dotent leurs projets de sens, d'un sens de plus en plus riche, se découvrent des leaders naturels et des porte-paroles. Lorsqu'une action collective prend l'importance, les basic building blocks, comme disent les sociologues anglais, la boîte noire de ces actions collectives, c'est toujours des micro-contextes, micro-réseaux de mobilisation. Et quand l'action collective prend l'importance, c'est parce que des micro-contextes de mobilisation parviennent à se fédérer, à s'organiser, à communiquer. Et ce sont des cellules de base, en quelque sorte, de caractère micro-social, qui font le lien entre le pont, entre les motivations individuelles, les relations interpersonnelles, les revendications organisationnelles et les pressions institutionnelles. Alors, une mesure qui vient de l'extérieur, comme par exemple l'évaluation de la qualité, a d'autant plus de chances de s'impliquer et d'être suivie des faits qu'elle est appropriée par de tels micro-réseaux de mobilisation qui en font en quelque sorte leur affaire. Mais alors, cette appropriation ne peut être que critique. Elle ne peut être qu'un processus actif. Elle ne peut jamais être un processus d'application servile, technocratique en quelque sorte, d'un dispositif imposé de l'extérieur. On est dans un processus, une logique de coopération conflictuelle, et le conflit, bien compris, est souvent le meilleur antidote de la violence d'ailleurs, et un processus de formation et d'apprentissage réciproque. Le rôle de la direction est central. C'est pas facile d'agir contre la direction. C'est pas facile d'agir si on n'est pas soutenu par elle. Et le problème de la direction actuellement, ça ressort tout le temps, c'est que vu la complexité inouïe de l'administration, de la gestion, etc., eh bien la direction a de moins en moins un leadership en termes de dynamique collective et de plus en plus un rôle de gestion. C'est pas la faute de la direction, c'est la situation qui conduit à cela. La direction doit intégrer l'évaluation à son plan de management de l'institution. Montrer l'importance qu'elle accorde à l'évaluation en désignant un coordonnateur qualité qui a du poids et du crédit auprès des collègues ou en lui donnant du poids et du crédit. Et la direction doit rassurer en disant que ce n'est pas dangereux de faire l'évaluation, qu'il ne faut pas en avoir peur. Elle doit soutenir ce qui fonctionne bien, c'est une vieille loi sociologique aussi. Il est beaucoup plus efficace de soutenir et d'encourager ce qui marche déjà bien que de s'obstiner à essayer de vaincre des résistances au changement. Renforcer ce qui marche bien, eh bien les autres suivront forcément, tôt ou tard, sans quoi ils se disqualifieront. Donc restaurer aussi une culture académique, c'est-à-dire un débat entre pairs, plutôt que la complaisance réciproque. Tu fais ce que tu veux, à condition que tu me laisses faire ce que je veux, tant qu'il n'y a pas d'ailleurs d'enjeu de place, de boulot, de poste, de crédit, de cours, etc. La collégialité par rapport à la force brutale institutionnelle, la liberté académique comme droit, mais associée à des devoirs. Ça, il faut pouvoir rendre compte de ce qu'on enseigne, avant de se dire simplement qu'on a le droit d'enseigner ce qu'on veut. Enfin, la liberté académique est souvent extrêmement mal comprise. Troisième point, c'est le dernier. Les interactions avec l'agence et les experts. L'agence a des fonctions au niveau institutionnel global. C'est inévitable, c'est indispensable. Permettre une image réflexive globale du paysage. Assurer une standardisation méthodologique. Garantir le processus vis-à-vis du politique et de l'international. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les fonctions de l'agence et des experts dans l'évaluation interne des institutions. Et là, il faut inverser en quelque sorte la perception. L'évaluation doit être appropriée et pilotée en interne, non de l'extérieur. Une notion intéressante en psychologie sociale et en sociologie, c'est la notion de locus of control. Certaines institutions, certaines personnes ont un locus of control, le lieu de contrôle d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, de sorte externe à elles-mêmes, et d'autres internes à elles-mêmes. Il faut se retrouver un locus of control interne. La fonction de l'agence et des experts est importante comme impulsion, qui doit se maintenir dans le temps, et pas seulement au début, d'accompagnement méthodologique, de regard extérieur. Et donc, il est important de réfléchir à la qualité aussi des interactions entre l'agence, les experts et les institutions. Il serait intéressant, par exemple, qu'il y ait des échanges entre l'agence, après les évaluations ou pendant les évaluations, et les responsables de la formation dans les institutions. Accentuer les résultats en termes de formation, plutôt qu'en termes de contrôle, ou de perception, en tout cas de contrôle, ce serait quelque chose qui contribuerait à une vision différente. Alors, qui a peur d'évaluation? Pourquoi cette peur? Qui a peur des experts? Et que révèle cette peur sur les institutions? Une hypothèse de réponse, et je terminerai là-dessus, et je m'inspire ici d'un socio-canadien qui s'appelle philosophe plutôt, Freytag, c'est l'idée que les institutions d'enseignement supérieur se comportent plus actuellement, et c'est pas une critique parce que c'est hyper compliqué, comme des organisations cognitives que comme des institutions culturelles. Les organisations, c'est quoi? Ce sont des ensembles qui se définissent, qui fonctionnent en fonction des contraintes de l'environnement, qui s'adaptent à l'environnement, qui essaient de s'adapter à la concurrence, à la transformation de la population, aux injonctions de l'Europe, aux injonctions de la communauté française, etc. Les organisations cognitives, en fait, n'ont plus la capacité de se donner des finalités. Elles s'adaptent, elles rusent, elles essayent de survivre le moins mal possible dans un environnement qui décide tout pour elles. Les institutions, eh bien, se définissent dans leur capacité d'instituer, c'est-à-dire de faire reconnaître et exister une fonction spécifique pour l'ensemble de la société. Et c'est cela, me semble-t-il, que les universités, les écoles risquent de perdre de plus en plus. C'est cette capacité de faire reconnaître et de faire exister pour l'ensemble de la société, au niveau de cet enjeu de la connaissance, une fonction spécifique, et de donner moins d'importance à cette soumission à ces contraintes, ces injonctions venant de l'extérieur, et davantage s'approprier une capacité plus autonome de définir des finalités et de poursuivre. Je vous remercie.